C'est bon? Alors R22, tout le monde, antenne Arsport 2024. Alors et après?
Bonjour Vincent, mais qui es-tu?
Bonjour Neil, je suis Vincent Béraud et je suis directeur de la Maison des Jonglages, qui est une scène conventionnée jonglage basée à La Courneuve en région parisienne. Et par ailleurs, et en plus, on va dire, j'ai été pendant 20-25 ans directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle Les Singuliers, et je suis jongleur. Et puis dans le cadre de cette compagnie, j'ai porté des projets de production et de création, donc en tant qu'interprète au plateau, jongleur et pas que, à croiser un peu du théâtre, de la danse, de différentes approches artistiques, et aussi metteur en scène, regard extérieur sur ces projets-là. Et j'ai travaillé aussi avec pas mal d'autres compagnies et d'autres créateurs, chorégraphes ou metteurs en scène.
Comment t'es venu au jonglage ?
Je suis venu au jonglage par hasard. J'avais étudié à l'université et après un bac plus 3, j'ai fait un break, je suis parti en voyage. Et dans le cadre de ce voyage, j'ai fait une première rencontre avec le jonglage qui n'a pas été du tout positif puisque je n'ai pas réussi à apprendre à jongler 3 balles et j'ai trouvé ça complexe et pas très intéressant. Et 6 mois plus tard, j'ai eu à nouveau l'occasion, une soirée d'anniversaire, d'apprendre. Et là, j'ai eu le déclic, j'ai appris d'un coup. J'ai dit, tiens, je suis capable. Et là, j'ai mordu, et je suis devenu passionné. Et là, à partir de là, je me suis mis à jongler 8 à 10 heures par jour pendant au moins les 4-5 premières années de ma pratique.
Et c'est quoi les...
J'ai arrêté d'ailleurs ce que je faisais par ailleurs. C'est devenu dévorant.
Et c'est... Quelles étaient les études que tu as faites ? Tu as fait de l'anthropologie, c'est ça ?
Oui, j'ai fait un bac scientifique d'abord, qui devait m'emmener vers des études supérieures de mathématiques que je n'ai pas faites. Et du coup, je suis parti faire de la sociologie et je me suis intéressé à l'ethnologie, effectivement. Donc, j'ai fait une licence d'ethnologie. Et à l'époque, ce qui m'intéressait en particulier, mais c'était assez théorique puisque je n'avais pas été sur le terrain, c'était la tradition des aborigènes d'Australie. En particulier, mais je m'intéressais beaucoup aussi à l'anthropologie des religions. C'est un peu dans cet axe-là aussi que j'avais commencé à me spécialiser. Mais suite à ces études-là, je suis parti justement sur le terrain, entre guillemets, puisque c'est ça qui me manquait. Je trouvais à un moment que l'ethnologie était un peu trop techniciste. Et du coup, j'avais besoin d'un peu de subjectivité et de vie de terrain. Et je suis parti m'encanailler un petit peu sur les routes et en l'occurrence, quelques temps en Turquie, où j'ai pu apprendre le turc et développer un intérêt assez fort pour cette culture et ce pays. Et par la suite, plus récemment, j'ai repris des études, il y a quelques années. Et là, j'ai fait un master 2 de relations internationales. Et justement, le lien s'est fait à nouveau avec la Turquie, puisque j'ai fait un travail de recherche sur la diplomatie turque. À l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, du coup qui n'avait pas de lien direct avec les questions de culture ou de spectacle. Voilà.
Et ton parcours, du coup, il t'a amené à côtoyer le milieu universitaire, le milieu scientifique au sens large, et aussi le milieu artistique, et t'as travaillé aussi cette articulation entre art et science. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, mais c'est ça en fait dans ma pratique en tant qu'artiste. Alors effectivement, j'avais ce background d'études universitaires et puis j'étais resté en contact aussi avec certaines personnes qui sont devenues par la suite chercheurs, dont une en particulier, Cédric Parizeau, qui est anthropologue du politique. Et c'est vrai qu'on s'était recroisé plusieurs fois, mais on a été amené à se recroiser à nouveau pour imaginer des projets ensemble. Et c'est vrai que moi, ça faisait sens à la fois avec un attrait pour l'anthropologie que j'avais gardé. J'avais de toute façon construit des spectacles qui avaient toujours un petit fond de recherche documentaire, de recherche de sources, de ressources, qui était un peu un travail que je faisais sur le modèle un peu scientifique, même si c'était à ma manière. Recherche de fond, de sens, d'arguments un peu en quelque sorte théoriques. Et du coup, avec Cédric Parizeau, à la sortie aussi de ses études de relations internationales dont je parlais, j'avais l'envie de quitte à refaire du spectacle, à essayer de travailler des angles un peu nouveaux, ou qui justement me permettaient moi de réunir des approches que j'avais laissées un peu chacune dans leur coin, comme justement l'anthropologie et le cirque de l'autre côté, par exemple. Et donc, on a développé des projets dits art-science, alors plutôt sur un angle art-science humaine et sociale, qui n'est pas l'angle le plus fréquent dans l'approche art-science. Et on a commencé à construire des partenariats sur différents types d'objets, soit un projet moi que j'avais initié de mise en scène où Cédric est venu nous aider à travailler un peu sur des contenus puisque les sujets de ce spectacle étaient la frontière qui est aussi son sujet d'étude lui en tant que chercheur, donc ça nous a permis de creuser des pistes et de se rendre compte aussi qu'on n'avait pas forcément les mêmes approches et certainement pas d'ailleurs en tant qu'artiste et scientifique sur des mêmes sujets de réflexion. Donc se rendre compte aussi que la recherche artistique, eh bien, c'est une autre manière de faire de la recherche que la recherche académique, même s'il y a des points communs, des endroits de rencontre. Et on a du coup développé aussi des projets à partir de ce genre de postulat, on va dire, de position qu'on avait chacun. On s'est dit que ce serait intéressant de confronter tout simplement un artiste et un chercheur dans un travail. Donc, tous les deux, on s'est confrontés à une écriture ensemble, une écriture collaborative, et on a monté un solo que moi je jouais sur scène, mais qu'on avait co-écrit ensemble sur la question des frontières. Et puis ensuite, on a mis en place un dispositif pour inviter des artistes et des chercheurs à travailler ensemble. Dispositif finalement assez simple, proposer à un artiste, un chercheur, donc des binômes, plusieurs binômes, de faire l'expérience de se rencontrer et d'essayer en gros de sortir d'un schéma qui dirait que l'artiste vient finalement amener de la poésie et du sensible à la recherche scientifique et faciliter sa médiatisation, ou de l'autre côté, l'inverse extrême, dire que le chercheur vient amener le sérieux et la rigueur et la véracité du contenu pour que l'artiste puisse dire des choses qui ont véritablement du sens pour le public. Donc chercher une troisième voie en fait, une voie où chacun serait un peu mis en péril aux frontières de sa pratique et de ses savoirs et viendrait finalement chercher un tierce objet dont il ne sait pas ce que c'est au départ. Donc tout en essayant de garder quand même l'idée que, autant pour le chercheur que pour l'artiste, ils puissent aller vers quelque chose qui a du sens par rapport à leur pratique et leur savoir. J'utiliserai le terme d'extradisciplinarité, c'est-à-dire plutôt que de l'interdisciplinarité, l'idée c'est un peu comme dans l'ethnologie, c'est faire un voyage dans l'ailleurs et puis donc dans une autre discipline, dans un autre savoir, une autre pratique, et puis revenir dans son champ et voir comment ça perturbe son propre champ de départ.
Une fois lors d'un atelier du réseau Artsport, Vincent, tu avais dit que les travaux sur les liens entre art et sport faisaient écho à ces recherches que toi, tu avais menées sur les liens entre art et science. Tu peux nous dire comment, à quel endroit ?
Oui, eh bien, je reprendrai d'ailleurs un peu des termes qu'utilise Cédric Parizeau, encore une fois, là, que j'ai déjà cité précédemment. Il utilise, et pour l'avoir vraiment expérimenté avec lui, j'ai trouvé ça très très juste, il utilise la notion de mise en crise, par exemple. Et en fait, lorsqu'on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte qu'il y a des moments où on n'arrivait pas à se comprendre. Et du coup, c'était bien au-delà de ce que j'ai pu vivre en tant qu'artiste sur des plateaux de recherche pour des créations, où effectivement, parfois, on a aussi du mal à se comprendre. Mais là, c'était du mal à se comprendre dans le sens où il y aurait une sorte d'incompatibilité presque de nature entre un artiste et un chercheur. Et j'ai l'impression que quand on travaille entre un artiste et un sportif, ou une sportive, une artiste, bien sûr, on peut avoir cette même problématique d'incompatibilité, de compréhension. C'est pratiquement des problématiques de champ paradigmatique, en fait, qui tout d'un coup se rencontrent et ont du mal à se rencontrer ou s'interpénètrent de manière parfois un peu violente. Donc, mise en crise d'un côté, et puis en même temps, de l'autre côté, peut-être plus positif, perturbation créatrice. C'est-à-dire, ça perturbe, mais ça permet de créer. Et je crois que ça c'est quelque chose que je ressens aussi dans la relation entre l'art et le sport. C'est-à-dire que tout d'un coup, je reprendrai aussi quelque chose que j'avais lu précédemment, une anthropologue américaine qui s'appelle Donna Haraway, qui a développé le concept d'espèce compagne. fait, elle est partie de l'étude du rapport entre l'homme et les animaux, entre l'homme et les chiens. Et finalement, l'idée, ce serait de dire qu'entre un artiste et un chercheur, entre un artiste et un sportif, on est un peu dans cette logique où c'est un chien et un chat qui essaient de converser. Et en fait, chacun, personne n'est dupe sur l'idée qu'il deviendra ce qu'est l'autre, mais en même temps respecte complètement l'univers de l'autre. L'exemple du chien et du chat est peut-être pas le meilleur parce qu'ils ne s'apprécient pas toujours, mais on va dire c'est qu'est-ce qu'ils font ces espèces compagnes pour réussir à communiquer alors qu'ils sont sur des endroits où finalement c'est même pas le problème de ne pas parler la même langue, en fait c'est une autre perception du monde, plus une autre langue, plus d'autres pratiques, plus d'autres savoirs. Donc c'est tellement de différence que tout d'un coup, l'enjeu, c'est d'aller plutôt titiller, plutôt que d'essayer qu'il y ait une fusion et une adéquation totale entre ces espèces compagnes, c'est plutôt aller essayer de mesurer les écarts, c'est-à-dire quel type d'écart se crée entre les tentatives de relation et de mise en relation. Et pour moi, dans la relation art-science, il y a vraiment cette question en creux, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment au-delà de la forme qui peut en sortir, au-delà des tentatives, c'est-à-dire qu'est-ce qui est impalpable dans cette relation et qui pourtant est un peu l'essentiel. Et dans la relation art-sport, je pense qu'il y a cette chose-là aussi.
Est-ce que tu peux nous parler de la maison des jonglages ? Qu'est-ce que vous y faites ?
Oui, alors la maison des jonglages, c'est une association qui, donc, comme je disais tout à l'heure, est une structure qui est devenue depuis 2015 une scène conventionnée jonglage. Alors, je le dis parce que c'est assez important dans le sens où c'est la seule scène conventionnée en France qui a le label. Alors, c'est pas tout à fait un label, mais qui a l'appellation jonglage. Notre mission principale, en fait, c'est de défendre, de promouvoir, de diffuser, d'effectuer également une veille sur tout ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler la jonglerie contemporaine. Alors, ça va renvoyer aussi à des questions autour de qu'est-ce que le cirque contemporain aussi, de manière plus générale, mais la jonglerie contemporaine au sens d'une jonglerie dite artistique, parce qu'en fait, dans le milieu du jonglage, des jonglages, on dit des jonglages, nous, parce qu'on défend l'idée justement qu'il n'y en a pas qu'une seule sorte. C'est un monde très international, assez globalisé, très dynamique, et qui est quand même fait d'énormément de praticiens ou de pratiquants, je ne sais pas comment, mais qui sont souvent dans un univers qu'on peut qualifier plutôt d'amateur. Qui se retrouvent à travers ce qu'on appelle les conventions de jonglage, qui sont des grands temps de rassemblement au niveau international ou régionaux dans le monde, à droite à gauche. Et il n'y a pas d'équivalent, en fait, dans le monde entier, hein, de structure comme la Maison des Jonglages. C'est une structure qui peut à la fois coproduire des projets de création, diffuser des projets de création dans le cadre d'un festival que nous organisons qui s'appelle la Rencontre des Jonglages, qui peut développer des projets d'action artistique et culturelle essentiellement centrés sur la question du jonglage et de la manipulation d'objets, qui peut proposer des formations professionnelles. On est à cet endroit-là assez unique. Quelque part une niche dans la niche, c'est-à-dire on est une petite niche dans la niche du cirque contemporain qui est lui-même un petit endroit de ce qu'on pourrait appeler le spectacle vivant aujourd'hui en France.
Et quel lien entretient le jonglage avec le sport, d'après toi ?
Alors moi, de mon expérience personnelle, de mon vécu, je dirais qu'il y a quelque chose il y a un lien que je verrais comme ça, c'est celui avec la pratique, c'est-à-dire le training, l'entraînement. D'ailleurs, souvent, il y a des jongleurs qui disent « je vais m'entraîner », d'autres qui disent « je vais répéter ». Alors parfois, ça permet de distinguer d'emblée si on est face à quelqu'un qui se considère plutôt comme pas vraiment dans l'univers artistique ou plutôt amateur, mais amateur professionnel n'est pas forcément une distinction entre artiste pas artiste pour les jongleurs, mais souvent quand quelqu'un dit je vais m'entraîner, il est plutôt dans une pratique un peu plus sportive dans la manière de l'appréhender. Quand il dit je vais répéter, il est tout de suite en train de dire je vais répéter parce que j'ai un spectacle à jouer bientôt. Mais en gros, dans les deux cas, je pense qu'on a affaire à des pratiques qui sont quand même assez proches du sport, et même, on va dire, quand on est professionnel, je pense du sport de haut niveau, c'est-à-dire que d'abord on y passe énormément de temps. On a des systèmes d'éducatifs, c'est-à-dire pour travailler un jonglage à 5 balles, on va avoir tout un système, toute une méthodologie, alors qui est un peu personnelle pour chaque jongleur ou jongleuse, mais on va avoir une certaine approche du travail à un objet, deux objets, trois objets, quatre objets pour arriver à cinq objets. On va avoir des logiques d'échauffement, de la même manière d'ailleurs. C'est-à-dire que pour arriver à jongler 5 balles, on va passer pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois des éducatifs différents, donc de 1 à 5 balles. Mais aussi le jour J de l'entraînement, même si on sait très bien jongler 5 balles, on va s'échauffer avec une balle, avec deux balles, avec trois balles, pour éviter les tendinites, pour finalement respecter le corps comme le font les sportifs. Et puis on est dans une recherche un peu de l'excellence, de la performance. Alors, même si les nouvelles formes de cirque, ce qu'on appelle le cirque de création, par opposition un peu au cirque traditionnel, essayent de se démarquer de la question de la virtuosité, ou en tout cas de la mise en scène uniquement de la virtuosité, on est quand même toujours, je crois, au fond, dans l'ADN des jongleurs, des jongleuses, comme des circassiens en général, il y a une recherche de la performance, au moins dans la pratique, dans l'entraînement, justement. Et donc, il y a cette logique de toujours plus haut, toujours plus loin, quelque part.
Et quels sont les lieux dans lesquels s'entraînent les jongleurs ? Est-ce que l'espace public prend une place importante dans les lieux d'apprentissage et de transmission du jonglage ?
Oui, tout à fait. Bah, disons que le jonglage, déjà par définition, il suffit d'avoir effectivement trois balles ou trois massues dans son sac, globalement, et puis de les sortir et de jongler. Donc ça peut se faire partout. C'est des objets, les objets en tout cas qu'on appelle codifiés, là, comme la balle ou le jonglage, des objets un peu classiques du jonglage, sont peu sensibles aux intempéries. Donc on peut travailler un peu par tous les temps et tous les vents, plus ou moins le vent, parce que la massue est un peu sensible au vent. Mais... et effectivement, moi je l'ai beaucoup fait, je sais que ça se fait encore. Là récemment, je pense que ça bouge un peu, mais non, ça existe encore. Je vois à Paris, il y a des lieux comme le 104 qui sont des lieux semi-espace public, mais il y a eu longtemps la pelouse de Bercy ou le carré des Halles il y a quelques années, avant que soit refait le cœur de Paris, là, des Halles. Mais il y a plein d'endroits comme ça dans d'autres villes françaises et dans le monde. Où effectivement la pratique se fait en espace public, ce qui la sort d'ailleurs d'autres pratiques circassiennes, mais qui fait aussi, je pense qu'elle a toujours été un peu à côté, qu'elle n'a pas été toujours que dans la tradition du cirque. Le jonglage a toujours été un peu dedans, dehors par rapport à l'histoire du cirque, je pense. Et je repense à ça aussi, par exemple en Amérique du Sud, il y a une pratique des trottoirs, des carrefours, où les jongleurs jonglent en fait au feu rouge. Donc ça, c'est vraiment, c'est à la fois s'entraîner, faire un peu le chapeau aussi, éventuellement récupérer un peu d'argent.
Et ce rapport à l'espace public, est-ce qu'il provoque des choses aussi en termes d'échanges, alors que ce soit entre jongleurs de différents niveaux ou entre différents jongleurs, mais aussi entre des jongleurs et d'autres disciplines d'art de rue ?
Alors, entre jongleurs, c'est sûr, ça crée vraiment des émulations, des échanges de savoir. C'est une communauté très, très dynamique en termes de transmission interpersonnelle, interindividuelle. C'est assez différent de la magie, par exemple, qui se construit vraiment sur la question du secret, même si on sait bien que les magiciens se passent les tours. Mais je ne suis pas magicien, mais je sais que c'est particulier, le savoir dans l'univers de la magie. Dans l'univers de la jonglerie, le savoir, le savoir-faire, il se transmet. Enfin, il n'y a pas vraiment de chasse gardée. Après, on pourrait questionner la notion de qui est auteur de quoi, les figures de jonglage dont on considère que certains sont vraiment les auteurs, et donc quand d'autres les reprennent, ils font un peu hommage à ceux qui les ont inventés, mais il y a aussi tout un patrimoine commun qui se transmet avec grand plaisir chez les jongleurs. Après, avec d'autres pratiques, c'est sûr que dès qu'un jongleur se met à s'entraîner dans un parc l'été, il peut se retrouver à côté de gens qui font du frisbee, du boomerang, du hakisak, je ne sais pas, d'autres pratiques dont on va peut-être parler d'ailleurs, qui sont des pratiques dites ludosportives et qui elles aussi nécessitent de la dextérité, mais qui sont, comme l'indique le mot ludosportif, de l'ordre du jeu. Là où le jongleur, mais encore une fois c'est complexe, il y a beaucoup de jongleurs qui sont aussi que dans le jeu, qui sont dans une approche amateur en fait, et qui peuvent avoir des très bons niveaux techniques, parfois meilleurs que les professionnels, mais qui ne font pas de scène, donc qui du coup sont sensiblement ont une approche similaire à celle de celui qui va jouer au frisbee, même de manière très virtuose dans le parc l'été. Et c'est intéressant, moi qui suis jongleur professionnel, quand je croise des gens qui font du frisbee, je sens que j'ai pas la même approche que dans mon exigence de justement le training dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est intéressant, c'est-à-dire que le training de mon jonglage est un training avec une exigence, je pense, de celle d'un sportif de haut niveau. Alors que le gars qui vient faire du frisbee le week-end au parc, il n'a pas cette exigence. Mais il peut être très très bon dans sa manipulation du frisbee. Ça ne contredit pas. Il n'a pas la même approche tout à fait.
Et la vidéo et les réseaux sociaux, c'est aussi des formats qui sont pris en charge par les gens qui pratiquent le jonglage?
Oui, de plus en plus. Enfin, je pense que depuis au moins une vingtaine d'années, il y a un mouvement, effectivement. Alors, à la fois, il y a un mouvement, on va dire, assez simple à filmer. Et ça, c'est vraiment lié aux réseaux sociaux, lié à la question de la trace, au web 2.0, ou je ne sais pas, ou les innovations numériques qui permettent de le faire. Mais donc, des traces de l'ordre du tutoriel, transmission de comment pratiquer telle et telle figure de jonglage, etc. Mais il y a aussi des créations, des capsules vidéo qui sont vraiment créées ex nihilo pour la vidéo, pour les deux dimensions. Et du coup, où le jonglage est pensé autrement. Et là, il y a pas mal d'inventions, ouais, de scénarii, de dramaturgie, véritablement dans une écriture vidéo. Ça se développe beaucoup, ouais. Ça se développe avec des particularités culturelles. Enfin, je pense par exemple aux Finlandais qui ont, à une période, beaucoup développé ça, certaines équipes artistiques en Finlande, à leur manière, avec forcément une touche différente de ce qu'aurait pu être une approche plus française, quoi.
Et du coup, tu parles de dramaturgie particulière à la vidéo. Comment travailler pour la vidéo transforme le jonglage et l'écriture qui est liée au jonglage?
Je pense que pour la vidéo, à travers la vidéo, on peut imaginer tout simplement des choses qui ne se feraient pas en vrai, enfin qui se feraient pas. Le montage permet pas mal de choses. Alors, c'est pas l'idée de truquer, hein, bien sûr. Ce serait plutôt l'idée tout d'un coup d'avoir des angles de vue, des perspectives qui sont vraiment différentes de celles d'un spectacle en frontal ou même en circulaire dans un chapiteau. Tout d'un coup, on va pouvoir avoir un récit très beaucoup plus complexe en termes de temporalité, en termes de séquençage, de plan, enfin tous ces termes qui sont liés au cinéma, en fait. Donc de mise en situation aussi sur des contextes, comment dire, des décors réels, en fait. Et on peut filmer, moi j'avais fait ça à une époque, on peut se filmer dans un lavomatique, on peut se filmer dans des toilettes publiques, on peut se filmer devant une épicerie en train de voler trois pommes pour aller les jongler au coin de la rue. Ça, c'était une expérience que j'avais fait, mais on les avait rendues après, bien sûr. On peut imaginer plein de choses, en fait. On peut travailler avec des sacs plastiques dans un supermarché au moment où les autres à côté de vous remplissent les sacs avec les tomates, et ça peut les surprendre. On peut créer des situations performatives et les filmer. Alors évidemment, elles peuvent exister en vrai sans être filmées, mais si on les filme, évidemment, on a tout d'un coup autre chose que de filmer un spectacle, quoi.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, tu peux nous parler, Vincent, pardon, un petit peu plus des pratiques ludo-sportives que tu as déjà évoquées?
Oui, mais en fait, c'est vrai que quand on est jongleur, moi je disais, c'est mon cas, mais c'est le cas de pas mal d'autres, je pense. On a tendance à s'intéresser, surtout en termes de recherche, comme ça, pour essayer de trouver un peu des nouveaux agrès. Enfin, c'est un terme qui s'utilise parfois pour le jonglage. Nouveaux agrès, nouvelles pratiques. Et finalement, on s'aperçoit autour de nous qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pratiquées comme des jeux, comme des sports, mais au sens... plutôt des jeux, on va dire. Et donc, oui, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas, je peux en citer certains qui sont très connus. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc, le frisbee, par exemple, en fait partie. Le boomerang, moi, j'ai pratiqué à un moment. C'est un objet vraiment très étonnant et qui est très, très proche de la jonglerie. Et en même temps, il y a certains jongleurs qui travaillent avec des boomerangs, mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Et puis, les gens qui pratiquent le boomerang, même professionnellement, puisqu'il y en a, ne se considèrent pas comme jongleurs. Et en gros, les pratiques ludo-sportives, souvent, les gens qui les pratiquent n'ont pas l'impression de faire de la jonglerie, et les jongleurs s'y intéressent plus ou moins, ça dépend. Et s'ils s'y intéressent, si c'est pour des créations artistiques, ils vont en retirer qu'un petit endroit, quelque chose qui les a vraiment intéressés particulièrement dans cette pratique. Après, je peux en lister quelques-unes, peut-être.
Avec grand plaisir, Vincent.
Alors, il y en a une, moi, dont je parle souvent, qui m'intéresse très particulièrement. Ça s'appelle le Chinlon. Enfin, ça a d'autres noms, je crois. C'est je dis d'autres noms parce que ça vient de Birmanie. En Birmanie, je crois qu'on l'appelle pas toujours uniquement Chinlon, mais bon, on va dire le Chinlon, qui est une balle en osier qui fait à peu près la taille d'un ballon de handball. Et c'est une pratique pratiquement millénaire, je crois, en Birmanie, qui trouve aussi un lien avec la tradition bouddhiste en Birmanie. Et traditionnellement, c'est travailler à six en équipe par les hommes, plutôt en solo par les femmes. Et c'est une pratique extrêmement virtuose, assez dure à décrire. En équipe, les hommes travaillent sur un espace circulaire qui doit faire à peu près 6-7 mètres de diamètre. Et c'est une pratique où il y a... C'est un petit peu comme la capoeira, c'est un endroit où on est vraiment entre l'art et le sport, au sens où il y a un esprit un peu de compétition, il y a des équipes, il y a des maillots, etc. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant. Il y a plutôt une mise en parallèle des différentes dextérités et le public apprécie, avec une sorte d'habitude patrimoniale, à apprécier le geste, le beau geste et le juste geste. Donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Et en dehors du Chinlon et dans la même région, géographique, par exemple, il y a le Dakao, Dacau, qui est aussi appelé la plume, et qui est devenu d'ailleurs un peu plus connu en Europe par ce qu'on appelle le plume foot. C'est en gros une plume accrochée, traditionnellement, c'est une plume accrochée à des os de seiche, et ça se frappe avec le pied, ça se joue qu'avec le pied, ou certaines parties du corps peuvent être concernées, mais pas les mains, en tout cas. Et là, c'est un jeu d'échange de ce petit volant entre différents participants qui, en général, sont assez nombreux, une dizaine, avec des gestes de dextérité aussi incroyables. Mais après, c'est vrai qu'on peut aller sur des choses qui sont parfois récentes, même très récentes. Hein. Je pense au sign spinning, qui est un truc qui a été développé aux États-Unis, qui est pratiqué plutôt par des étudiants comme un petit boulot. Et en fait, c'est fait pour faire de la publicité dans les rues. Et en gros, le sign spinning, comme le nom l'indique en anglais, c'est une manipulation de panneaux, de signalétique. Donc, c'est des panneaux qui ont été travaillés ad hoc, vraiment pour bien correspondre à l'enjeu de la manipulation. Généralement, c'est des grandes flèches qui font 1,50 m, 2 m de long, une sorte de carton un peu épais. Et les manipulateurs font des choses qui sont un peu indescriptibles. Je ne sais pas comment on pourrait. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Là, je veux dire, pour décrire la manip, ils font tourner ça autour des bras, autour des jambes. C'est un peu acrobatique. Ils le lancent, ils le rattrapent, etc. Mais c'est des gestes assez étonnants, assez uniques.
Un peu comme du cheerleading, peut-être?
Peut-être un petit peu comme du cheerleading, ouais. Je cherche parce que ça me fait penser à un truc, mais là je ne retrouve plus. C'est presque comme si, en manipulant l'objet, je trouve que parfois on a l'impression de voir une planche de surf évoluer dans l'espace, mais sans surfeur dessus, quoi. Comme si le manipulateur était la vague qui fait bouger la planche de surf, quoi. C'est assez étonnant. Et ça reste un truc semi-pro, pas vraiment. C'est considéré comme un petit boulot d'à côté. Et puis, il y a des formations rapides pour les sign spinners. Et puis après, il y en a qui deviennent très bons. Et puis, comme aux États-Unis, on peut devenir professionnel de tout. Il y a quelques pros de sign spinning et des compétitions. Et je pensais aussi à tout ce qui est lié à l'univers alimentaire aussi. Toute la tradition de la manipulation de la pâte de pizza, ça c'est assez connu, mais c'est vrai qu'il y a des pizzaïolos qui sont devenus des spécialistes de la performance de la pâte, quoi, manipulation de la pâte. Il y a les serveurs de thé, ça c'est connu aussi dans certaines régions en Orient. En Turquie, il y a la manipulation des glaces traditionnelles qui est très très forte, avec une dextérité incroyable. Mais le cuisinier japonais, on peut considérer que c'est presque une pratique. Enfin, pour moi, je ne sais pas si on peut toujours dire ludo-sportive, mais en tout cas, c'est des pratiques, comme je disais tout à l'heure, qui sont liées à la manipulation de l'objet avec une grande dextérité du. C'est un peu la dextérité du quotidien, quoi, aussi.
Et ces réflexions que tu as, Vincent, sur les pratiques ludo-sportives, tu aurais envie de les intégrer dans un projet pour l'Olympiade culturelle en préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024?
Oui, c'est ça. Bah, moi, j'aimerais bien, effectivement, alors qu'on développe. Bah, là, par exemple, avec le Chinlon birman, on a commencé à prendre des contacts avec une petite fédération européenne qui s'est développée pour le Chinlon. Donc, bon, suite au Covid, ça a été un peu compliqué, mais ils devaient déjà venir faire des démonstrations à la Courneuve le printemps dernier, et je pense qu'ils viendront, j'espère, le printemps prochain. Et puis, ils ont des liens avec des joueurs birmans, des équipes birmanes. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer dans l'absolu aussi dans le cadre du boulevard qui nous emmène tranquillement vers 2024. un jour imaginer avoir une équipe de birmans qui viendrait, même je me dis une équipe de seniors birmans, parce que dans le Shinlon par exemple, c'est souvent le cas dans ces pratiques ludosportives, il y a des seniors quelque part qui maîtrisent. Et il y a quelque chose d'intergénérationnel qui est très particulier souvent. Mais comme il y avait dans le cirque classique, qui s'est un petit peu perdu avec le cirque contemporain. Et du coup, ça, c'est des choses que je trouverais super, qu'on puisse faire venir des gens qui représentent comme ça ces pratiques. Et après, j'aimerais aller, oui, un plus loin, en quelque sorte, et du coup, plus près, en fait. C'est-à-dire chercher chercher chez nous, là, par exemple, à la Courneuve ou en Seine-Saint-Denis, comment ces pratiques qui viennent du monde entier, de cultures très différentes, elles se sont ou pas transmises à travers les vagues migratoires, et comment elles sont ou pas présentes et pratiquées sur nos territoires. Et j'ai tendance à fantasmer un peu l'idée qu'elles le sont, mais même si elles le sont pas, en fait, je pense qu'il y a une vraie recherche à faire. Enfin, si elles le sont, c'est vraiment bien, parce que ce qu'on pourrait un peu rêver, c'est de faire se rencontrer des générations, des premières, des deuxièmes, des troisièmes générations issues de la migration qui ont peut-être transmis dans la famille des pratiques, et les faire se rencontrer avec des jongleurs ou des jongleuses professionnelles qui seraient friands d'apprendre. Donc là, on serait dans une transmission inverse à ce qu'on a d'habitude. Ce ne seraient plus les jongleurs et les jongleuses qui apprendraient des choses à des gens, mais qui viendraient apprendre d'autres. Et puis inversement, voir comment ces pratiques pourraient tout d'un coup muter au contact justement d'autres praticiens. Et puis aussi, essayer d'avoir une sorte de typologie un peu de ces pratiques, en essayant d'avoir un cadre assez large au départ, parce que moi, des fois, en rigolant, je dis que même les osselets, ça pourrait en faire partie. Et y a toutes sortes de jeux comme ça, du billard népalé, ou... De toute façon, il y a pas mal de choses comme ça, où il y a une forme de dextérité à voir après jusqu'où on fera rentrer les choses à l'intérieur. Mais... Et donc, effectivement, faire une recherche de territoire.
Et cette recherche de territoire sur les pratiques ludosportives présente en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'elle pourrait, d'après toi, se travailler sur le plan art-science? Est-ce qu'elle pourrait impliquer, donc, tu disais des habitants, tu pensais aussi à des jongleurs, à des artistes, et tu penses que ça serait intéressant de croiser ça avec une approche scientifique?
Oui, c'est vrai qu'en plus, avec mon passif, comme on disait tout à l'heure, lié à l'anthropologie, tout ça, je me dis que oui, ce qui serait super intéressant, je pense, c'est de... J'ai pas encore vraiment trouvé là où les personnes, mais d'avoir des gens qui se jetteraient un peu dans cette recherche d'un point de vue purement académique, hein, une recherche de terrain, théorique, historique, qui peut prendre plein de dimensions. Mais je pense que c'est vrai que ce serait vraiment extrêmement intéressant qu'on puisse associer des chercheurs à cette recherche. Je pense que, enfin, par exemple, quand les vagues de migratoires espagnoles et portugaises dans les années 50, 60 sont arrivées, on sait qu'à la Courneuve, dans la région d'Aubervilliers, etc., c'est des endroits où il y a eu beaucoup cette présence, au départ d'ailleurs sous forme de bidonvilles, d'autoconstruction, etc. J'imagine qu'il y a des traces, tout simplement, des pratiques, des moments de fête, qu'est-ce qu'on faisait dans le genre pratique sportive, pratique un peu ludosportive, et puis revenir jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste, est-ce qu'il y a encore des choses. J'ai encore vu récemment au parc des Guilans à Montreuil des Mongols qui viennent faire un jeu. J'ai pas encore osé trop leur demander, je sais pas ce que c'est, ça ressemble au carom effectivement, le billard népalais, mais c'est pas tout à fait ça. Puis en même temps, il y a des jets d'objets de temps en temps, j'ai l'impression qu'il faut être très précis dans le lancer. Voilà, ça, je me dis, il y a certainement des anthropologues quelque part qui ont plus la capacité que moi je n'ai de dire, ah oui, c'est tel jeu, ah oui, mais les Mongols, ils sont arrivés à telle période, en Seine-Saint-Denis, on en trouve plutôt là que là, etc. Je pense que c'est des choses comme ça qui seraient intéressantes à creuser.
Merci beaucoup, Vincent.
Merci, Neil. Merci beaucoup.